les chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour si vous nous rejoignez sur REC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie de nos invités qui sont Catherine Moulinier et Laurent Descotil. Bonjour, comment allez-vous ?
Eh bien, merci.
Très heureux de vous accueillir ici. Vous êtes venu de pas très loin en fait, hein. Vous êtes d'où de Jouer, non ?
On a traversé la campagne pour venir jusqu'à vous, c'est-à-dire oui. 10 kilomètres Jouer.
C'est ça. Peut-être plus long d'ailleurs de venir du début de Chauvigny jusqu'ici par le marché.
Peut-être 15.
Peut-être un peu plus compliqué. Je vous remercie en tout cas d'être venu aujourd'hui malgré la météo, mais elle est là pour ça aussi. On a eu un peu d'orage ce matin. Tant mieux pour celles et ceux qui vont faire de la randonnée par la suite. Ça permet de dégager un peu les odeurs un peu partout. Je vous remercie d'être venu. On va parler de votre métier. Vous êtes l'un et l'autre artiste. Alors artiste, on verra dans quel domaine. Monsieur est sculpteur et madame calligraphe de cinéma. On expliquera un peu tout ça. Vous êtes surtout arrivé dans la région il y a combien de temps maintenant ?
Ça fait un an et demi qu'on habite à temps complet à Jouer.
Et on a acheté il y a 3 ans maintenant. Lieu où on habite.
Exactement, un lieu. Alors, je ne sais pas si vous parlez du même endroit. Moi, je parlais des dépendances en même temps du château. C'est cet endroit-là.
Tout à fait. Oui.
Donc, vous êtes propriétaire.
L'ancienne
vous êtes...
colonie de vacances de Jouer, en fait.
Et qui se situe donc, juste à la sortie de Jouer, hein, pas loin de la salle des fêtes, ou l'ancienne salle
Exactement.
Des fêtes, peut-être qu'elle existe toujours. Une salle des fêtes où j'adorais d'ailleurs aller quand j'étais adolescent, on va dire, parce qu'il y avait des fêtes tout le week-end. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, puisqu'on a une chanson de Claude Nougaro qui est venue régulièrement dans le secteur, puisque Maurice Vander, hein, qui était son musicien, habitait à Pindray. Vous n'êtes pas loin de Pindray, vous n'êtes pas loin du Château des Pruniers, c'est bien ça ?
Oui, on est tout près du Château des Pruniers aussi.
Et on en parlera aussi tout à l'heure.
On est bien entouré.
Et oui, on en parlera tout à l'heure aussi, parce que je crois que vous avez une fille qui va exposer très prochainement dans le secteur. Pour ce qui est de votre arrivée, qu'est-ce qui vous a amené à arriver à Chauvigny ? Enfin, à arriver à Jouer plutôt ?
Ah, c'est une histoire assez étonnante. En fait, Laurent, nous, à l'origine, on est plutôt de la région parisienne, pas de Paris. On a toujours habité à la campagne quand même. Mais Laurent avait envie de plus d'espace. Et on s'est mis à chercher en fait une maison et on n'avait pas vraiment d'idées préconçues sur la région. Donc, on a cherché beaucoup en Bretagne au début. Mais on voulait, c'était pas en adéquation vraiment avec à la fois notre budget, notre projet. On voulait quelque chose de grand où on puisse recevoir du monde. Et on a commencé, donc on est parti de la Bretagne sans rien acheter. On est allé en Dordogne, on est allé en Normandie, on a visité peut-être 50 lieux. Hein,
au moins, oui.
Au moins, c'était vraiment un parcours du combattant. Et puis un jour, Laurent m'envoie une annonce en disant « Regarde, qu'est-ce que t'en penses ?» Et je regarde ça, c'était à côté, pas très loin du Futuroscope. Et comme Laurent avait déjà travaillé pour le Futuroscope en tant qu'artiste, du coup, on s'est dit « Bah, pourquoi pas ?» J'ai regardé l'annonce, j'ai trouvé que c'était étonnant, que ça paraissait trop beau pour être vrai, en fait. Donc, j'ai téléphoné au propriétaire et j'ai appelé Laurent. Je lui ai dit « Écoute, là, on part, on se donne 3 jours pour y aller, mais pas plus. » On a foncé. Et je pense que je n'exagère pas.
Oui, qu'en fait, moi, quand je suis arrivé devant le portail de la propriété, j'ai regardé le truc, j'ai vu qu'il y avait déjà un bâtiment sur le côté qui n'était pas cité dans l'annonce, qui ressemblait vraiment à un grand local pour que je puisse m'installer. J'ai vu une allée de marronniers qui permettait de monter au commun, et j'ai fait, c'est ici, en fait.
Il a craqué tout de suite.
Et je l'ai su tout de suite.
Moi, il m'a fallu 100 mètres de plus, découvrir le bâtiment. Et puis après, quand on est allé dans le domaine de 20 hectares bordé par la Gartempe, dans la forêt...
Ce qui n'était pas annoncé.
Il n'y avait rien dans l'annonce de ce...
Du coup, on découvre au fur et à mesure. Quand j'ai demandé au propriétaire, mais il va jusqu'où le terrain ? Il m'a dit, les arbres tout là-bas. Je ne comprenais pas, en fait. Je dis, c'est quoi ? C'est carrément très, très grand comme truc, en fait.
Oui. On a été totalement happés. On est tombés fous amoureux. Vu ça continue, hein, d'ailleurs. On aime cet endroit plus que tout. Et c'était ici et c'était pas ailleurs.
Vraiment ici, donc le long de la vallée des Fresques, hein, puisque c'est la vallée des Fresques qui part de Saint-Savin, de Saint-Germain jusqu'à Saugé, qui passe au pied de chez vous, une rivière qui l'été est encore navigable, puisqu'on arrive à faire encore du canoë, pas plus hein, que du canoë, mais on peut en faire encore sur le secteur. Je vous dis ça parce que j'en ai fait l'année dernière avec quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Isabelle Soulard.
Hein. Ah oui, qu'on salue vraiment avec beaucoup d'amitié.
Oui, Isabelle Soulard qui est historienne, qui fait énormément hein, pour tout ce qui est Abbaye de Saint-Sernin, tout ce qui est Vallée des Fresques, tout ce qui est patrimoine en général sur la Vienne. Je dis souvent qu'elle est connue comme le loup blanc, mais c'est en tout cas, c'est bien le cas. Elle s'occupe aussi du triangle d'or du Poitou, donc ça peut être aussi un moyen de vous faire venir du monde. C'est le triangle d'or Anglo-Sur-Anglin, Chauvigny-Saint-Savin. Anglo-Sur-Anglin, c'est le roc aux sorciers et la forteresse. Saint-Savin, c'est l'abbaye, bien sûr, classée au patrimoine mondial. Et puis, bien d'autres choses, hein, comme la fabrique du Point du Jour. Et enfin, Chauvigny, donc la cité médiévale, des endroits à découvrir. Des endroits qui sont certainement intéressants pour vous qui êtes artiste.
Mais je rebondis là-dessus parce que c'est incroyable. En fait, pour nous, ça a été... on ne le savait pas, mais on est tombé dans un endroit qui fourmille d'artistes, qui fourmille de richesses, qui fourmille de beauté. Et ça, tout ça, ça a été des surprises qu'on a découvert et qu'on découvre encore petit à petit. Et c'est vraiment, c'est tout à fait incroyable. On est venu pour le lieu sans se rendre compte qu'il y avait un tissu artistique, culturel énorme et qui nous enchante. Hein.
Exactement, je parlais tout à l'heure de Claude Nougaro qui venait régulièrement il y a quelques années sur le secteur voir, excusez-moi, Maurice Vander. On parle aussi de Gilles Berbeco hein, qui habitait dans le secteur et son épouse est toujours donc Kitty sur la Bussière avec sa fille Émilie. Sa fille d'ailleurs que j'invite régulièrement à venir, hein, j'espère qu'un jour ça se fera ici dans cette émission. Donc c'est vrai que beaucoup de monde, beaucoup d'artistes aussi, beaucoup d'ateliers d'artistes, hein, que ce soit à Saint-Pierre-de-Maillet, que ce soit à Saint-Savin.
Exactement.
Vous
commencez
à les côtoyer, à les fréquenter ?
Ah oui, beaucoup,
ah,
bien
ouais.
sûr. Oui, on a déjà un réseau artistique et amical aussi assez important. Oui, effectivement, vous parlez de Saint-Pierre-de-Maillet avec Hans Jorgensen, Nallier avec Bruno Grunstein et Christine Smith. Mais ça va aussi jusqu'à Solger en passant par avec Francine Marie-Thélène et Auguet, François et Sandrine, etc. Enfin, il y a du monde partout, à Montmorillon également, on ne peut pas tous les citer, mais on a déjà organisé des expositions où on était 13 artistes à exposer chez nous, pour le chemin des ateliers d'artistes.
Récemment, tu as fait l'exposition 8 femmes.
Exactement, organisé l'exposition 8 femmes à La Belle Idée, c'était
exactement. Super. On en parlera tout à l'heure justement de La Belle Idée, de cette exposition, puis des conférences, de tout ce qui tourne autour de ce patrimoine que vous avez acquis il y a quelques années, enfin il y a un an et demi, deux ans, on le disait tout à l'heure. Hein. Au niveau plus personnel, on va parler un peu de vos origines, on va parler un peu d'où vous venez. Qu'est-ce qui vous a amené quand même à devenir artiste? Alors on va peut-être prendre d'abord Laurent. Pour en parler, pour nous, c'est vrai que c'est étonnant. Vous êtes artiste, alors sculpteur, on va dire, mais sculpteur d'animaux mouvants.
C'est ça. Ouais. Disons qu'en fait, j'ai eu un travail assez classique. Je suis passé par les écoles normales, étudiant aux beaux-arts, aux arts appliqués. J'ai une culture classique de l'art, et après, mon travail a évolué vers ce qu'on appelle de la sculpture cinétique. C'est-à-dire, c'est des sculptures qui bougent tout simplement, comme l'artiste référent qu'on pourrait citer, ça serait Tang Li, qui est vraiment le sculpteur qui a fait connaître un peu cet art-là, mais il y a eu Calder, il y en a eu d'autres avant, et l'idée c'est de faire d'une sculpture qui est généralement immobile, mobile.
on devient pas artiste comme ça, vous avez une passion qui vient de votre famille
Oui, j'ai un père qui peignait beaucoup, qui dessinait, qui avait fait des études d'horloger, donc beaucoup de dessins, beaucoup de précisions, et il nous a donné ça, ce goût-là, de dessin et de peindre.
Vous faites bien de parler de goût d'ailleurs, parce que cette semaine j'écoutais une petite conversation, c'est Jacques Brel qui il y a quelques années parlait de talent, et qui disait que le talent pour lui n'existait pas en fait, que le talent c'était plus le désir au départ, le désir de faire quelque chose, on n'avait pas de talent, et ensuite ce désir c'était de la sueur, tout simplement du travail, donc du désir et du travail pour arriver à ce qu'on appelle du talent. Le talent c'est, parce que c'est facile aujourd'hui de dire bah, écoutez, tout le monde peut avoir du talent, tout le monde peut être artiste, tout le monde peut faire n'importe quoi, non, c'est vraiment un véritable travail en fait.
Oui, c'est un vrai travail, on travaille tout le temps, et c'est un classique de dire ça, mais c'est beaucoup de nos erreurs qu'on apprend vraiment à évoluer, à aller vers un travail plus efficace, esthétique, émotionnel, et c'est vraiment, c'est long.
Et vous Catherine, l'origine de cette passion pour la calligraphie et autres, et la peinture d'ailleurs?
Alors moi, dans ma famille, il n'y a pas énormément d'artistes, je dirais, en amont. Je pense que c'est mon frère Jean-Marc a été une inspiration quand même constante. Il était très artiste, mais très technicien aussi. C'était quelqu'un d'assez extraordinaire qui a fait des effets spéciaux pour le cinéma, mais il était également inventeur. Il a ouvert la voie pour pas mal de choses. Et c'est sans doute par ce biais-là que j'ai décidé de devenir. En fait, moi, j'ai une formation de designer. Donc, j'ai un diplôme de designer. Mais j'ai très vite trouvé du travail comme peintre décoratrice. J'ai travaillé au parc Astérix pendant des années comme peintre, voilà, où j'ai appris beaucoup. Alors là, il faut être assez dégourdi avec les couleurs. Et donc j'ai fait ça. Et ensuite, je suis venue à la calligraphie. C'est vraiment là, c'est un hasard de vie où mon beau-frère était accessoiriste pour le cinéma. Il travaillait sur un film à l'époque qui s'appelait Monte Cristo, mais qui était le Monte Cristo des années 1996, du siècle dernier, qui était mis en scène par José Dayan avec Depardieu, Ornella Muti, etc. Donc, une série en 4 épisodes. Et il m'a dit, ma Catherine, on a besoin d'une lettre. Je sais que tu écris bien, tu as toujours aimé ça, etc. Donc, est-ce que tu pourrais nous faire une lettre pour le film ? Et donc, j'ai dit, je ne disais jamais non hein, sur les propositions.
Étonnée, oui.
Et donc, je me suis lancée. C'était extrêmement difficile. J'ai sué sang et eau, comme vraiment quelqu'un qui ne connaît rien au papier ancien, aux plumes, à l'encre. Il faut une adéquation quand même assez... ça ne vient pas tout de suite. Et donc, j'ai fait une lettre en tremblant. Je leur ai donné. Enfin, donné. C'est un bien grand mot. Et ils m'ont dit, ok, super, bah, tu vas nous faire une imitation des écritures de Napoléon, et puis on a besoin de ci, de ça, de l'autre, et tout. Et du coup, j'ai fait énormément de documents pour ce premier film. Et on les voit beaucoup, malheureusement, dans le film, parce qu'on ne peut pas dire que ça soit mon meilleur travail. Ouais. Mais, et ensuite, bon, bah, du coup, après, j'ai enchaîné, j'ai travaillé sur beaucoup, beaucoup d'autres... film.
Eh bien, écoutez, on va revoir ça tout à l'heure. On va faire une petite pause musicale. Je parlais tout à l'heure des artistes hein, qui sont dans le secteur. Je parlais de Claude Nougaro. Claude Nougaro qui était du côté de Pindré, qui venait régulièrement voir Maurice Vander, donc son musicien du côté de Pindré. Moi, j'ai eu la chance de le croiser une fois. Je le raconte quelques fois à la pompe à essence à Jouer. Il y avait une pompe à essence à une boîte de nuit à l'époque. On était en 87, 88 hein, sur Jouer, qui ont disparu bien sûr aujourd'hui. Et je me rappelle d'une histoire de cette pompe à essence où j'avais une amie dont les parents tenaient justement cette pompe à essence et cette épicerie. Et elle me dit, elle vient voir, elle me dit, Francis, il y a Claude Nougaro qui est venu prendre de l'essence. Je dis, bien sûr, Claude Nougaro vient souvent prendre de l'essence à partir de Toulouse. Quand il ne sait pas quoi faire, il vient jouer. Il dit, si, je te promets, puis ce soir, il sera dans la boîte de nuit. Je dis, bien sûr, il vient souvent prendre de l'essence et en boîte de nuit, faire de la musique à discothèque. Et le soir, on a eu Claude Nougaro qui est venu, qui n'a pas chanté, qui a juste joué au 421 sur le comptoir. Il est ressorti, je lui ai tapé sur l'épaule, j'ai osé lui taper sur l'épaule, lui demander un autographe.
Bravo.
J'ai eu un autographe magnifique. Je l'ai perdu malheureusement. C'était deux femmes, hein, une femme, un ange et puis une diablesse hein, qui se faisaient front. Et voilà, je l'ai perdu, je le regrette. Mais voilà, c'est une belle expérience pour moi. Un bon souvenir en tout cas de Claude Nougaro. Et on va se faire une pause musicale justement avec une chanson qui a été écrite, inspirée en tout cas dans le secteur. C'est Le Coq et la Pendule qu'il a écrit donc en compagnie de Maurice Vander. À tout de suite.
Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule. Tous les goûts sont dans la nature. D'ailleurs, ce coq avait bon goût, car la pendule était fort belle et son tic-tac si doux que le temps ne pensait surtout qu'à passer son temps auprès d'elle. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, de l'aube jusqu'au crépuscule, et même la nuit, comme un hibou, l'amour le rendant coctambule, des cocoricots plein le cou, le coq rêvait à sa pendule, du Poitou, dans une ferme du Poitou. Un coq aimait une pendule, ça faisait des conciliabules chez les cocottes en courroux. Qu'est-ce que c'est que ce coq, ce cocktail, ce drôle d'oiseau, ce vieux coucou qui qui nous méprise et qui ne nous donne jamais un petit coup dans l'aile. Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule. Ah mesdames, vous parlez d'un Jules, le voilà qui chante à genoux. Oh ma pendule, je t'adore, ah laisse-moi te faire la cour. Tu es ma poule aux heures d'or, mon amour, mon amour. Une ferme du Poitou, un coq émet une pendule. Il est temps de venir à bout de cette fable ridicule, de cette crête à testicules qui chante l'aurore à minuit. Il avance ou bien je recule, se disait notre horlogerie, qui trottinait sur son cadran du bout de ses talons aiguilles. En écoutant son Don Juan, lui seriner sa séguedille, pour imaginer son trépas, point n'est besoin d'être devin, la pendule sonne l'heure du repas. Coq au vin, coq au vin, dans une ferme du Poitou, cocorico, un coq émet une pendule.
Nous sommes toujours sur AOC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie de Catherine Moulinier et Laurent Descotil. Catherine qui est calligraphe de cinéma et Laurent qui lui est sculpteur. On en a parlé un peu, on va détailler maintenant un peu tout ça. Laurent, donc vous êtes sculpteur installé donc à jouer tous les deux, mais depuis un an et demi, avec des animaux. Hein, c'était on le disait, des animaux un peu particuliers. Vous avez eu une expérience avec la troupe du Théâtre Royal de Luxe pendant un certain temps. C'est la même grandeur d'animaux, peut-être pas quand même. Hein.
Sur la même échelle. Pour construire un géant au Royal de Luxe, il y a 8 mois de travail à peu près. Il y a aussi une vingtaine de personnes pour la construction. Ouais. Donc c'est vraiment un travail qui dure à peu près une année pour construire un personnage qui va après déambuler dans les rues. Voilà.
Et ça, c'est des animaux qu'on voyait, hein, pour les gens qui connaissent un peu. On les voyait notamment à Nantes,
c'est bien ça? C'est ça. En fait, la compagnie de théâtre s'est installée à Nantes il y a maintenant un bon paquet d'années, une vingtaine d'années, et construit avec la machine, à une époque, construisait les géants qui allaient arpenter les rues du monde.
D'accord. Et donc, pas mal d'expositions à travers le monde, on disait pas mal de...
Pas des expositions, des déambulations, des spectacles de rue.
Ah oui, c'était vraiment du spectacle.
C'est une compagnie de théâtre de rue, Royal de Luxe, qui s'est fait connaître comme ça depuis une trentaine d'années. Et moi, je suis rentré chez eux en 99-2000. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les géants, parce qu'étant sculpteur, j'ai sculpté la plupart des géants avec eux. Pas le premier, mais après j'ai repris le premier plus tard pour la restauration. Mais voilà, j'ai été un des sculpteurs de la compagnie à une époque, pendant une vingtaine d'années.
Donc de la sculpture, c'est vrai que c'est étonnant. Moi, quand j'ai vu les premières images, je me suis dit, la sculpture, c'est énorme. Et là, aujourd'hui, vous continuez à en faire. C'est votre passion. Comment est née cette passion véritablement? Alors, vous allez me dire, les études ne font pas tout, parce que vous êtes arrêté à l'âge de 15 ans. Il faut quand même avoir une envie de se lancer dans ce projet, puis de le garder surtout, parce que c'est facile de parler d'un thème. La sculpture, ça aurait pu être la sculpture, c'est de la sculpture sur bois, je crois. Hein.
Oui.
Ça aurait pu être de la sculpture sur pierre ou autre. Il faut quand même garder ce concept et le suivre en permanence.
En fait, je me suis vite rendu compte que le volume était vraiment quelque chose de très très intéressant. Il y avait plein de façons de l'aborder. Et suite à différentes expériences, en fait, quand j'ai commencé mes études, je me suis retrouvé à faire de la céramique industrielle. Donc j'ai beaucoup manié de terre. Donc cette terre m'a permis de faire du modelage. Et du modelage, je suis passé à la sculpture vraiment naturellement. C'est-à-dire que je passais de fabriquer un volume en le montant à fabriquer un volume en le sculptant, ou en ajoutant ou en retirant. C'est vraiment deux techniques particulières et c'est ça qui m'a fait prendre conscience vraiment de tout ce qui pouvait être l'esthétisme de ce genre de sculpture qui était vraiment très très intéressant. Et après est venu le mouvement, après, avec d'autres expériences, j'ai découvert le mouvement, ce qui m'a beaucoup, beaucoup amusé.
On est un peu dans le domaine de la marionnette, en fait, hein, quelque part, même si c'est un peu restrictif de dire ça, mais c'est vrai que le mouvement, peut-être un souvenir d'enfance par rapport à cela, non une...
Oui, peut-être. Un cadeau de ma tante qu'elle nous avait fait quand j'étais vraiment enfant. Elle avait fabriqué de très, très jolies marionnettes à fil en papier mâché, qui étaient vraiment de très 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 jolies marionnettes que j'ai détruites rapidement, mais qui étaient vraiment très très réussies, qui m'avaient vraiment plu parce que dès qu'on les animait, on se rendait compte que le personnage devenait vivant. Et ce qu'on a réussi à faire avec Royal de Luxe, au travers des répétitions, c'est de rendre ces personnages vivants. C'est qu'à un moment donné, on ne voit plus un objet, on voit une émotion qui transparaît au travers de cet objet. Et c'est ça qui est magnifique, ce moment où ce passage, où la chose devient humaine ou animale, c'est très intéressant.
Exactement. Et aujourd'hui, donc, vous êtes installé à Jouer sur plusieurs hectares de terrain et puis des bâtiments aussi. Vous exposez sur le secteur, enfin, ça va peut-être venir, vous dites il y a un an et demi que vous êtes là, ça va peut-être venir.
On a fait les deux expositions de Montmorillon, les rencontres d'artistes. On a exposé chez nous.
Oui. Quand on a fait
le chemin des ateliers d'artistes de Gartempe de 206. Mmh. Donc on a fait deux éditions. Et voilà, pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises, c'est à peu près tout. Toi, Catherine, tu vas exposer bientôt.
Oui, en mai, à Montmorillon, mais moi c'est pas du tout des sculptures animées.
Oui, tout à fait, oui.
Moi c'est plus des fleurs toutes plates.
C'est autre chose.
Mais sinon, sur le en termes de...
On pourrait faire une rétrospective de l'œuvre de Laurent Descotils à la maison.
Exactement. En fait, je vous dis ça parce que par rapport à... On va voir grand, hein, Léonard de Vinci, en fait. Quand vous allez au Clos du Cé, vous avez ces sculptures qui sont là-bas, qui sont dans le jardin, en fait. Hein. Et je me suis dit, tiens, ça peut être aussi une idée, pourquoi pas, de mettre ces sculptures un peu partout sur votre terrain. Vous avez ce qu'il faut en terrain. Et puis surtout, ça me permet de parler d'une chose, c'est d'une association hein, dont vous êtes créatrice, je crois. Hein. C'est des ailes pour eux. Parce que Léonard de Vinci, si j'ai bon souvenir, l'inventeur, en tout cas, du parachutisme.
C'est vraiment marrant que vous parliez de ça. Alors, je ne suis pas créatrice de ailes pour eux, mais par contre, je suis, on va dire, à l'origine de ce projet qui a été repris par une personne qui avait plus de temps à l'époque que moi. En fait, pour la faire courte, à l'époque, j'ai créé une association à la suite du décès de mon frère qui faisait du base jump et qui travaillait beaucoup avec Cuba et qui avait ce projet d'envoyer des ailes de parapente. Il était aussi parapentiste. Et des ailes de parapente à Cuba et voilà. Donc à sa mort, j'avais envie de faire quelque chose pour parler de lui, quelque chose d'intéressant et tourné vers les autres. Et du coup, j'ai lancé une collecte de parapentes parce qu'un parapente ça coûte extrêmement cher. Je suis parapentiste moi-même et du coup, pour des parapentes de seconde main pour les envoyer à l'autre bout du monde, donc Madagascar, Cuba, etc. Et je m'en suis occupée pendant plusieurs années. Ça a très très bien marché. Et c'était quand on voit les pilotes de là-bas qui volent avec des chiffons qui sont même plus bons pour coudre des coussins, ça fait peur. Et du coup, je n'ai plus pu m'occuper de cette association, j'avais trop de travail et j'ai demandé à quelqu'un de s'en occuper. Il a fondé Elle pour eux, qui est une association qui marche extrêmement bien, dont je m'occupe encore un petit peu, voilà, mais de façon...
C'est ce même frère qui vous a lancé dans le cinéma quelque
oui,
part.
C'est lui. Oui,
c'est
oui.
Lui, voilà,
oui,
donc
oui.
Une façon de renvoyer la balle, de garder le souvenir. On parlait donc de sculpture et autres, on parlait d'exposition par rapport à ça, on va parler de votre passion aussi, Catherine, de votre passion pour la peinture et puis pour l'écriture aussi, hein, cette écriture que vous utilisez dans les films en tant que calligraphe de cinéma, un métier que vous avez pratiquement inventé.
On peut dire ça comme ça, oui. En fait, il existe des calligraphes qui travaillent pour le cinéma parce que ça a l'air complètement pas important. Et c'est vrai que c'est pas non plus l'élément essentiel dans un film. Hein. Mais en fait, l'ambiance d'un film, ça se décide aussi beaucoup avec les décors, les accessoires. Et il faut que les acteurs se sentent aussi immergé dans une époque. Moi, je travaille évidemment pratiquement que sur les films historiques, les films d'époque. Et donc, ça participe à une ambiance à faire vrai, en fait. Quand vous avez un beau document écrit à la main sur un beau papier, ça, c'est, beaucoup, c'est impossible de toutes les façons de tourner des documents tiré de la photocopieuse, par exemple, pour un film comme Les Trois Mousquetaires. Voilà, donc c'est des documents que je fabrique pour soit pour le décor, soit comme accessoire. La différence entre le décor et un accessoire, c'est que le décor, on ne va pas toucher à ces papiers qui sont là en décoration, des livres, etc., que je fabrique aussi. Mais les accessoires vont être filmés en gros plan ou vont être écrits directement par les acteurs.
D'accord. Et là, donc, vous avez tourné sur pas mal de films. J'ai vu plus de 100 films, je crois.
Oui, oui. Bah là, j'ai à peu près 120. J'ai collaboré à plus de 120 films. Oui.
Voilà. Et la seule chose qu'on peut voir de vous, à la rigueur, c'est une main, quelquefois.
On peut voir la main, oui, parce que quand on doit voir le document en très gros plan, alors même si je fais aussi le coaching des acteurs pour leur apprendre à faire ce que ça fasse la blague à 1m50 à peu près quand ils écrivent, on n'obtient pas toujours des résultats qu'on peut filmer en gros plan. Et du coup, j'ai fait beaucoup de doublures d'acteurs et d'actrices.
C'est pas évident hein, d'écrire à la plume. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, on va dire, j'avais un prof de dessin qui nous forçait à écrire à la plume, pas du tout du même genre. On faisait du dessin industriel à l'époque avec ça. Et c'est vrai que ça bave dans tous les sens. Hein. Je me posais la question à l'époque, comment on faisait quand même pour écrire alors, c'est vrai qu'on avait les moines qui écrivaient, eux avaient le temps de reprendre 50 fois leur texte. Pour quelqu'un de tous les jours qui aurait voulu écrire, on voit des fois des lettres d'amour passer, des lettres enflammées. C'est assez compliqué quand même à écrire.
Oui, bah, je pense que c'était réservé à une élite, hein. Enfin une élite en tout cas des gens qui avaient des gros moyens. Mais il y a deux choses, hein. Il y a le travail à la plume d'oie, la plume d'oiseau, on va dire, qui est différent du travail à la plume mécanique. La plume mécanique a été inventée dans les années 1810-1820. Mmh. Donc quand c'est apparu, ça a beaucoup démocratisé ce travail. Mais le travail à la plume d'oiseau est très compliqué. Oui,
exactement, c'est celui que vous, forcément celui que vous utilisez dans les films. Non,
non pas du tout. Non, ah, non. D'accord. Alors, je l'ai fait, par exemple, pour le film Madame de Sévigné, où on voit vraiment, il fallait qu'il y ait un empattement un petit peu différent. Mais sinon, non, je travaille que à la plume mécanique. Et même, j'ai des petits secrets pour, même si c'est un film qui est antérieur à 1810-1820, pour qu'on ait l'impression que c'est une plume d'oie, mais en fait, il y a un petit secret derrière.
D'accord, on ne le révélera pas forcément. Oui, quand on arrive sur un film, c'est pas un peu compliqué quelquefois de s'intégrer à une équipe, sachant que vous n'êtes entre guillemets qu'accessoiriste à ce moment-là, quoi. Vous n'apportez pas, vous n'êtes pas acteur. Ça va être un peu compliqué, non? Vous arrivez pour quelques jours, quelques semaines peut-être.
Oui, ou même non. Parfois pour juste une journée. Ah, oui. Là, par exemple, je vais tourner sur un film sur la vie d'Alexandre Dumas. Je vais juste être le matin et je repars le soir. En fait, je me concentre sur mon travail et je connais en général les équipes, je connais pas mal de gens, donc c'est plus, j'arrive, voilà, il y a pas trop de problèmes avec ça. C'est vrai qu'il faut se concentrer vraiment sur, on peut avoir le trac de la main, on peut trembler très fort. Au début, ça m'arrivait, j'étais vraiment obligée de me concentrer extrêmement fort. Maintenant, si je travaille beaucoup en amont, là, je vais être obligée d'écrire à la manière d'Alexandre Dumas. Donc, je vais travailler énormément en amont pour sa signature, refaire sa signature. Et voilà, si je travaille beaucoup en amont, ça se passe bien.
D'accord. C'est pas un peu frustrant, justement, de parler de main, quelquefois, à l'écran, de savoir que vous faites ça pour des grands comédiens et puis de vous dire qu'à la fin, personne ne s'aperçoit de votre travail.
Ah non, pas
ça
du
passe,
tout.
Non,
non, au contraire, c'est super.
Il n'y a pas de souci d'égo de ce côté-là.
Pas du tout. Et parfois même, les scènes sont coupées au montage, hein, vous
en
savez. Non, c'est vraiment pas un problème. Moi, j'aime bien. Ce que j'aime, c'est faire des beaux documents. C'est. Rencontrer aussi, j'ai rencontré beaucoup d'acteurs, donc c'est marrant, les équipes de cinéma, c'est un peu une famille, hein, vraiment, on le dit, mais c'est vrai. L'amour du travail suffit amplement.
Parmi les grands films, on a parlé tout à l'heure de Monte Cristo, je pense qu'il y en a eu quelques-uns encore.
Bah, j'ai travaillé par exemple sur. J'ai beaucoup travaillé sur Louise Violet, où j'ai fait. Qui est sur une institutrice au début du siècle. J'ai travaillé sur La venue de l'avenir de Clapiche, ou pour aussi pour. Ridley Scott ou même des productions américaines. Donc là, c'est par contre un petit peu plus frustrant parce que on vous demande vraiment des choses très très précises. Vous pouvez pas inventer ou être vous sentir libre. Plutôt sur les grandes productions, c'est plus ça qui est plus frustrant que quand vous travaillez sur une toute petite production. Là, vous avez beaucoup plus carte blanche et là, c'est vraiment très très sympa.
Eh bien, écoutez, je vous laisse carte blanche pour tout à l'heure pour continuer l'émission. On va se faire une petite pause musicale, tiens, avec une chanson d'occasion. C'est Louis Chédid qui nous chantait Ainsi soit-il il y a quelques années. On revient tout de suite après.
Moteur. L'action se déroule dans ta ville, vue d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant, jusqu'à ton appartement. Doudoudoudou, si soit-il. Yeah, tel est le nom du film, comme il est dit dans le scénario. Au plan de toi dans ton berceau, comme il est précisé dans le script, lumière tamisée, flou artistique. Tu, 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 ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Sur la bande-son, une cloche qui sonne, fondue enchaînée sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires et plus tard les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Tu, 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 ainsi soit-il. Yeah, yeah. Tel est le nom du film. Autre séquence, autre scène. Chant contre chant, gros plan sur elle. T'as raison, y'a que l'amour qui vaille la peine. Demande à l'éclairagiste qu'il était. Tout, 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 ainsi soit-il. Oh, oh, oh. Tel est le nom du film. Flashback, tu regardes en arrière toutes les choses que t'as pas pu faire. Tu voudrais disparaître dans le rétroviseur, mais personne n'a jamais arrêté le projecteur. Tel est le nom du film. Traveling sur un corbillard qui passe, sans faire de bruit, sans laisser de traces. Un bébé qui pleure dans la maison d'en face. Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Alors la caméra zoom arrière et tu remontes dans l'hélicoptère.
Nous sommes toujours sur AOC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie de Catherine Moulinier, pardon, qui est calligraphe de cinéma, et son époux, son compagnon, je ne sais pas, Laurent Descotil, qui lui est sculpteur. On parlait de sculpture tout à l'heure, Laurent, et je me suis lancé dans la sculpture d'animaux. Mais en fait, c'est très, très, très restrictif par rapport à votre véritable activité, puisque vous ne faites pas que des animaux. Hein.
Non. Et un autre travail qui est en fait, dans le mouvement de ma sculpture, j'ai décidé des fois de retirer complètement la forme figurative. Et donc c'est seulement en fait un mouvement, une sculpture qui est là au service du mouvement. Donc avec de la lumière, je rajoute de la fibre optique. Donc ce qui est assez amusant, c'est que ce sont des sculptures qu'on regarde dans le noir. Donc pour des sculptures, généralement on a besoin de lumière et moi c'est le contraire. Elle-même émet sa lumière, donc on ne voit plus que le mouvement, et donc la lumière qui se déplace. Après, quand on allume la lumière, on voit tout le mécanisme qui la fait bouger. Voilà, mais c'est le principe.
D'accord. Je parlais surtout d'animaux parce que je vous imaginais bien tous les deux en tant qu'artiste dans un film hein, avec des animaux, avec une ambiance un peu ancienne, hein, style un film sur le loup du Gévaudan ou autre. Hein, on aurait imaginé cette situation. Jamais vous n'avez essayé ou été attiré par le fait de tourner un jour dans un film commun ?
On a travaillé ensemble.
On a travaillé sur un même film, oui.
L'envol.
L'envol, oui. Et puis Plan de chat aussi.
Oui. Une réussite.
Une réussite
qui
restait une semaine à l'affiche, mais c'était très sympa en tout cas. Oui.
L'envol, c'était.
L'envol, c'est un film sur avec Louis Garrel qui est un aviateur qui fabrique son propre avion.
Se crache et.
On n'a même pas eu le temps de voir le film.
Et donc c'est une occasion.
Je sculptais. Un grand-père qui un personnage qui revenait de la guerre 14-18 et qui sculpteur de figures de proue pour des bateaux, et donc je sculptais les figures de proue. Donc voilà, c'était ce travail que j'ai fait pour ce film.
Oui, et moi j'ai fait un livre consulté par un petit garçon, il feuillette et il y a toute l'histoire de l'aviation. Et d'ailleurs, si on fait un zoom sur la première page, je mets souvent Laurent Descotils en fait en clin d'œil dans les calligraphies que je fais.
D'accord.
Où je mets aussi les gens que j'aime bien, que je sais que ça les amuse
Bah écoutez, la prochaine fois,
je mettrai Francis Picard.
Voilà, exactement.
ça vous guette.
On parle de cinéma et autres. C'est vrai que c'est assez compliqué quelquefois d'intervenir peut-être sur des films. Cette passion, vous l'avez en commun, pas seulement. Vous avez la passion artistique, cette fibre artistique. Cette rencontre s'est faite à quelle occasion ? À l'occasion d'un rendez-vous d'une...
On s'est rencontrés sur une expo de Laurent à Brie-Comte-Robert, où il exposait plusieurs machines. C'était absolument extraordinaire. Il avait mis en place tout un système, un réseau de 5 machines qui se répondaient les unes les autres. Et j'avoue que quand j'ai visité cette expo, j'ai été voir l'artiste et je suis tombée complètement, d'abord amoureuse de l'œuvre. Bon, et puis après, voilà, il a été très, très sympathique. Voilà, donc ça a commencé comme ça.
Voilà, et cette rencontre qui dure maintenant depuis quelques années, on l'a dit, hein, vous êtes du côté de Jouer. Peut-être un décor de cinéma, ça se prêterait bien, non ? Ou de court-métrage simplement, soyons moins ambitieux.
Mais, le lieu se prêterait, oui, bien sûr.
Oui, c'est un très grand lieu. On a 1 kilomètre de rivière qui longe la propriété.
Et la forêt aussi.
La forêt de 10 hectares.
Abriter des batailles homériques.
Donc, et des grandes prairies qui sont vraiment...
Mais on y songe, hein, mettre le lieu éventuellement à la disposition du cinéma, des clips, etc. Il y a des sites comme ça, dont le plus connu s'appelle 20 000 lieux, et on va certainement mettre le lieu dessus.
Des chambres d'hôtes, peut-être pas, non ?
Oui,
tout à fait.
Oui, oui. Là, déjà, actuellement, on peut accueillir jusqu'à 10 personnes. Donc ça fait partie, effectivement, du projet qu'on a...
À la belle idée.
Ouais. À la belle idée, d'en faire un lieu de détente artistique où vous pouvez à la fois venir pour faire des stages, soit des stages de sculpture avec Laurent, ou des stages de reliure, calligraphie et autres, avec des personnes qui pourraient aussi venir... faire des stages, c'est-à-dire un prof de yoga qui n'a pas de lieu et qui a une dizaine de personnes inscrites et qui souhaitent trouver un endroit
agréable,
calme, avec des grandes salles et un hébergement. Donc jusqu'à 10 personnes à partir de cet été et jusqu'à 15 personnes à partir de l'été prochain.
Pas mal d'activités possibles, hein, des ateliers d'artistes, des résidences d'artistes peut-être aussi, non ?
Oui, tout à fait.
Vous en connaissez quelques-uns, donc ça peut être une occasion.
Oui, et puis ça peut être aussi des gens qui ont un projet artistique et qui souhaitent le faire réaliser, par exemple, avec quelqu'un qui l'aide comme Laurent, qui sait tout faire, qui sait souder, tourner, sculpter... Voilà, ça peut être aussi une idée.
Vous-même, vous avez eu à faire des fois des résidences d'artistes ? Parce que c'est vrai que quand on est artiste, c'est pas évident de trouver des lieux. Hein. Je vois que dans le secteur, on reçoit souvent des artistes par rapport à cela. Souvent d'ailleurs dans le sud de Vienne. J'ai vu que dans le sud de Vienne, il y avait pas mal de résidences d'artistes, enfin d'artistes qui venaient en résidence, en tout cas sur le secteur. Et je me disais, quand on est artiste, quand on débute, on a souvent besoin de ce genre de choses, ce genre d'appui en fait.
Hein. Absolument, oui, non, c'est une possibilité qu'on va offrir dans notre lieu. Oui.
Après, c'est vrai que moi, quand j'ai débuté en sculpture... C'était, comme on dit, la démerde, quoi, vraiment. Après, j'ai eu la chance d'avoir une mairie. On s'était monté en association avec les gens avec qui je travaillais à l'époque. Et on a une mairie qui a cru en nous. Et en échange d'un lieu pour travailler, d'un atelier, on troquait ça contre des interventions culturelles pour la ville. Souvent, ça s'est pratiqué, en tout cas à une époque, ça se pratiquait comme ça pour avoir un lieu pour travailler.
Voilà, c'était tout, au tout début, il y a maintenant quelques années, hein, vous avez commencé cette activité, l'un comme l'autre, cette activité qui se développe de plus en plus sur le secteur. Je vous remercie d'ailleurs encore une fois Isabelle Soulard pour nous avoir mis en relation et puis me permettre prochainement de venir découvrir vos œuvres directement sur le secteur. On rappelle l'adresse peut-être déjà de...
Alors c'est à Jouet, oui. 10 rue de l'Ancien Charron, et c'est la belle idée, voilà.
Exactement, la belle idée, donc qui se développe petit à petit, qui va accueillir d'autres activités, on l'a dit. Je pensais à une chose, je me disais, les chiens ne font pas des chats. Parmi les personnes que vous avez invitées pour la conférence il y a quelques temps, il y avait 8 femmes en conférence sur Jouet à l'initiative d'Isabelle Soulard. Il y avait une jeune fille qui s'appelle Brune Galland, me semble-t-il, qui
Tout
est une artiste, elle aussi.
Oui, Brune Galland, alors... Vous parlez à mon cœur directement,
oui, tout à fait, oui.
Bien sûr, puisque c'est Brune et ma fille. Et elle a fait une école de BD pendant 3 ans. Et elle fait de la BD, elle fait aussi des bijoux. Et elle exposera au château de Prunier pendant les journées organisées, je crois, le 12 et 13 juin. Et donc, elle pourra proposer ses bijoux à cette époque.
Mais écoutez, on va se faire une dernière pause musicale. On viendra tout de suite après pour parler véritablement de la belle idée, hein, du programme de la belle idée. On va se faire une pause musicale avec les habits d'époque, hein, ces abous à l'époque qui chantaient avec Arnold Turboutz, Adélaïde. À tout de suite.
Je ne puis m'empêcher, on parlait enfin.
Nous sommes toujours sur AOC 103.7 et les chemins de traverse. Pour la dernière partie de cette émission, on va parler de la belle idée, donc cet atelier artiste qui a été créé donc à Jouer, 10 rue de l'Ancien Charron, donc le long de la rivière, le long de la Gartempe. Un atelier que vous aviez créé maintenant il y a un an et demi, deux ans. Inscrit, donc on le disait, sur le chemin des artistes. J'ai vu ça, que les artistes de la Gartempe, le long de la Gartempe, des 206 km de Gartempe qui partent de la Creuse jusqu'à la Roche-Posay. Ça vous permet d'avoir des liens en même temps avec ces artistes et puis de développer votre atelier, on va dire, avec pas mal d'activités à voir prochainement.
En octobre.
En octobre,
oui.
Inauguration.
Le troisième chemin des ateliers d'artistes.
Ah d'accord, oui, tout à fait.
Qui tiendra en octobre.
Et vous, vos activités, par contre, ça a commencé déjà, forcément.
Oui, ça a commencé, mais ce sera surtout à partir de cet été. Hein.
Oui, voilà, on le attend, temps de s'installer.
Voilà.
Voilà, vous êtes pour l'instant, vous faites un peu d'exposition, des conférences, on l'a vu notamment avec cette conférence de 8 femmes sur les droits de la femme il y a quelques semaines maintenant.
Conférence et expo.
Mm-hmm. Exactement, conférence et expo à l'initiative d'Isabelle Soulard, on l'a dit. Et puis d'autres conférences peut-être. J'ai entendu parler d'un café de philosophie.
Alors on a un café philo le 22 avril. On va lancer une série de 3, un par mois pour voir si ça prend. J'ai l'impression que ça prend très très bien. Uh-huh. Il y a déjà plein d'inscrits, c'est jusqu'à 15 personnes. Donc café philo le 22 avril à la Belle Idée. Donc ça c'est très très ludique et c'est différent de ce qu'on fait mais
le soir, c'est ça.
Oui, c'est le soir, 20h 22h.
Et vous avez quelqu'un qui peut vous donner un petit coup de main de ce côté-là?
Nous qui animons ça, c'est Julien Ledoux.
D'accord.
Qui est un animateur de Café Philo. Il est professeur des écoles et il a écrit beaucoup de livres, notamment vers les enfants, pour mettre la philo à la portée de tout le monde, en fait.
D'accord. Je pensais aussi à Isabelle, en fait, hein, Isabelle Soulard, qui a été présidente de la SAPC, la Société des auteurs du Poitou-Charentes, hein, me semble-t-il, il y a quelques années.
On apprend toujours sur Isabelle Soulard.
Exactement.
Il y a tellement de choses.
Aux côtés de Régine Desforges, d'ailleurs, hein, qui était aussi dans cette même société d'auteurs du Poitou-Charentes. Donc pas mal de monde, pas mal d'artistes, pas mal de connaissances, hein, pour ce café philo. L'idée, c'est d'attirer le plus de monde, de l'ouvrir à tout public.
C'est en fait, oui, bien sûr, c'est ouvert à tout public, bien sûr. Mais c'est faire des choses qui sont pour ouvrir le lieu. En fait, nous, l'idée, c'est quand même de partager ce lieu avec le plus grand nombre. On n'a pas acheté cet endroit gigantesque pour y rester que tous les deux enfermés.
Oh, oui.
C'est vraiment l'inverse. C'est qui a une très belle idée peut la réaliser chez nous, par exemple.
Vous voyez,
soit c'est l'ouverture. Proposez-nous des choses si vous avez envie de faire un stage et vous avez 10 personnes ou 15 personnes, vous ne savez pas où les loger, vous ne savez pas comment faire, vous pouvez venir chez nous. Proposez-nous des choses aussi. Voilà. Et nous, on va proposer. On est ouvert à beaucoup de choses. Oui.
Exactement. Pas seulement la philo, moi j'ai fait un peu peur, on va dire, la philo, mais j'ai un souvenir d'enfant, de bac.
Ah, ça n'a rien à voir. C'est très ludique, en fait. Les cafés philo, on réfléchit ensemble, on débat ensemble, on essaye de se convaincre sur un concept. Mm-hmm. Mais c'est très ouvert et c'est très accessible. C'est vraiment ludique. Moi, j'ai commencé à y aller à Poitiers, dans le cadre où Julien proposait ce café à Poitiers. Et ça m'a tellement plu que je me suis dit, il faut essayer de le faire à la maison. Et ça a l'air de toucher vraiment
pour
son
les
public.
Gens qui ne veulent pas aller sur Poitiers, ça peut être super, super sympa. Quoi.
Tout à fait, exactement. Parce que de Saulgier jusqu'à Nalier, on peut se déplacer, Chauvigny.
C'est ça, pas mal de rencontres possibles au niveau des populations locales, qui sont demandeuses, on peut le dire. On n'a pas autant d'artistes dans un secteur sans une certaine raison. S'ils viennent s'installer, c'est qu'il y a forcément un décor, il y a des paysages, mais il y a aussi une ambiance par rapport à la population.
Il y a une ambiance, il y a l'abbaye de Saint-Savin, il y a Chauvigny, il y a Montmorillon, il y a Angles. C'est quand même des lieux où résonne la culture, le patrimoine, l'artistique. Quoi.
Exactement, Régine Desforges, j'en ai parlé tout à l'heure, notamment sur Montmorillon, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes. Donc vous cherchez à développer un peu ce secteur du côté de Jouer. On a parlé de conférences, on a parlé donc de café philo, mais il n'y a pas que ça. Je pense que l'idée, c'est d'attirer le plus de monde aussi pour d'autres choses. On parlait hors antenne tout à l'heure d'apiculteurs.
Oui, alors on travaille avec Béatrice Gerbeau, qui est apicultrice, qui est spécialiste de l'apis mellifera, c'est-à-dire l'abeille mellifère, la petite abeille noire, et qui élève ses abeilles dans vraiment le respect de la biodiversité et qui est quelqu'un de très très intéressant et qui va nous faire des journées découvertes de l'apiculture. Elle est également vannière Et ouais. Elle va proposer des petites journées de vannerie sauvage où on va pouvoir aller cueillir des plantes et puis les tisser pour en faire des nichoirs à oiseaux, des mangeoires, etc. En une journée ou une après-midi, par exemple.
Exactement, parce que vous avez, on rappelle, combien d'hectares de terrain ?
20.
20 hectares, donc ça laisse pas mal d'espace hein, pour découvrir un peu de la nature, hein, la botanique aussi, hein, c'est oui. Très important. Hein.
Ouais. Et tout à fait, parce qu'on a également Jean-Pierre Scherrer qui va nous faire des journées découvertes autour des plantes tinctoriales. Je pense que vous connaissez tous Jean-Pierre Scherrer sur Chauvigny, qui est une sommité en matière de botanique, qui fait des conférences dans la France entière, il est vraiment extraordinaire. Et il est formateur, intervenant en agronomie, en botanique. Et donc, c'est un spécialiste des plantes sauvages, des plantes tinctoriales, des plantes médicinales. Et donc, on a par exemple l'idée de faire un petit stage en commun où lui montre et on va cueillir les plantes avec lui. Moi, je prends le relais pour la fabrication d'un herbier ou d'un livre de recettes à base de plantes comestibles. Et faire des stages comme ça qui ressemblent, qui sont un petit peu nouveaux, un petit peu rigolos, où on mélange plusieurs disciplines en fait.
D'accord, ça c'est des stages qui sont déjà programmés.
Oui, alors on n'a pas le programme parce que c'est difficile de dire voilà ça va être tel et tel jour, mais je pense qu'on va quand même être obligé de mettre un cadre, un calendrier là-dessus. Oui.
On va se tester cet été sur différentes formules, 3 jours, 5 jours, à la demande.
Une journée, voilà, soit un groupe. Famille ou groupe qui vient de loin, groupe qui vient... C'est vrai qu'on est un petit peu en phase de test. Là.
La première année, véritablement, d'exercice, on peut dire, par rapport à cela. Donc,
tout à fait.
On essaiera d'inviter Jean-Pierre Scherrer d'ici la fin de la saison, hein, d'ici la fin du mois de juin. Il nous reste encore quelques dates de libre, il n'y a pas de raison. Autant en profiter. D'ailleurs, si vous avez des idées d'émission, vous n'hésitez pas à nous contacter. Vous nous envoyez un SMS, hein, 06 72 347 347, 06 72 347 347. On a encore quelques minutes, hein, il nous reste encore 3-4 minutes avant cela. Je voudrais saluer quand même le départ de Serge Boulanger, qui est préfet de la Vienne, que j'ai eu cette semaine, qui devait faire une émission avec nous et qui malheureusement ne pourra pas la faire. Il va être remplacé début mai par un nouveau préfet. On repassera la semaine prochaine d'ailleurs sur l'émission qu'on avait faite ensemble il y a quelques mois maintenant sur notre antenne. On est là toujours pour parler de votre activité, de la belle année. On peut donner peut-être un...
La belle année. Belle année aussi.
Pourquoi pas. La belle idée, pardon, qui s'est à jouer. Donc, on a un site internet, quelque chose comme ça
pour... Alors, on n'a pas encore de site internet. On a une page Facebook. La page Facebook, bah, c'est tout simple, hein, c'est La Belle Idée. Une page Insta, La Belle Idée Jouet, sans accent, tout ça. Et un mail, évidemment, asso.labelleidee@gmail.com. Et voilà, rejoindre.
Exactement, on mettra toutes ces coordonnées, hein, sur la page, sur le site de la radio. Ou alors, on peut s'adresser d'ailleurs aussi à la mairie. Hein, j'ai vu que vous étiez élu.
Ah oui, je suis conseillère municipale, oui.
Et oui, comme quoi vous intégrez bien dans le village en tout cas. Hein,
ouais,
vous...
C'est une belle façon de s'intégrer aussi et de connaître beaucoup de monde et d'essayer de faire des choses pour jouer, oui.
Exactement, pas mal de choses encore à faire, pas mal de développement. Cette année, donc, on l'a dit, avec des conférences, avec ce café philo et puis des expositions. Le prochain...
Et puis les stages qui commencent.
Et puis les stages qui commencent.
Oui, à partir de juillet, il y aura aussi une journée nature où on va faire découvrir les plantes faire des petits ateliers autour des plantes. Avec un repas de plantes sauvages et fleuries, etc., etc. 19 juillet. Donc et ça, si on va communiquer là-dessus un peu plus tard.
J'ai eu un message sur Internet il y a quelques jours maintenant, de personnes qui me demandaient comment faire si on a envie de faire de la calligraphie. Est-ce que vous faites des stages aussi dans ce domaine-là ? Est-ce que vous apprenez aux gens à faire de la calligraphie ?
Bien sûr. Oui. Je vais faire des petits stages d'initiation à la calligraphie et à la reliure, parce que c'est amusant de par exemple, de se fabriquer son propre livre avec le bon papier, avec les bons éléments, et puis ensuite de pouvoir s'entraîner dedans directement.
Ouais.
Et puis des journées d'initiation à la calligraphie. Parce que c'est vrai que, de par mon métier, j'apprends aux acteurs à écrire et ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc en 2 heures, il faut qu'ils aient déjà des tips pour arriver à calligraphier et que ça ait l'air joli. Donc j'ai une expérience pour apprendre assez rapidement les quelques bases pour commencer en calligraphie.
En calligraphie avec un papier particulier. Je vous dis ça parce qu'on a sur Chauvigny, quelqu'un que vous connaissez peut-être, c'est Véronique Hermouet, qui est l'épouse de Luc Turland. Luc Turland qui est dessinateur.
Non,
Véronique qui est dessinatrice, elle aussi, hein, qui font de la BD, en fait, pas mal de BD. Puis elle est surtout aussi, elle a une passion pour le papier. Elle est en ville haute ici, elle est venue plusieurs fois. Je vous mettrai en contact peut-être avec
elle. Merci beaucoup. J'ai rencontré Myriam Chesbeuf
pour la
rencontre de Montmorillon, qui était vraiment une très très belle rencontre. Oui.
Exactement. Et Véronique qui, elle aussi, donc en ville haute, et qui a une passion pour le papier qu'elle fabrique, enfin qu'elle achète en tout cas à un moulin du côté de Limoges. Et quelqu'un qui a une véritable passion là aussi, pour, comme vous, hein, pour la calligraphie, je pense aussi. J'essaierai de vous mettre en contact par rapport à
ça. Merci beaucoup. Oui.
Ouais. Bah, écoutez, je vous remercie. On rappelle, hein, les coordonnées donc de la belle idée.
La belle idée, absolument. Voilà. Donc, la page Facebook La Belle Idée, l'Insta La Belle Idée Jouets, et puis le mail, surtout là, le mail c'est important, si vous voulez nous envoyer vos coordonnées pour qu'on puisse vous tenir au courant de nos activités. asso.labelleidée, sans accent bien sûr, @gmail.com. asso.labelleidée@gmail.com.
Eh bien écoutez, Catherine et Laurent, merci. Merci d'être venus, il est midi pile poil, les cloches n'ont pas tardé à sonner.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Tout à fait.
Merci. Bon, à bientôt. Merci, au revoir.
Au revoir.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, tes drôles de poèmes, et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi.
Les chemins de traverse, rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.